各位好，我是安东尼，欢迎收听文化艺术。就在法国雷诺汽车集团雄心勃勃地在中国武汉启动年生产力15万辆 SUV、卡架和越野车的工厂，期待在中国年销售量2100万的汽车市场中占据 3% 的份额时，雷诺汽车的艺术收藏展在北京举行。展览题为一场现代奇遇，从去年12月13号在今日美术馆开馆，为期两个半月，到今年2月29号结束。雷诺的汽车收藏从1967年开始到今天已经有300多件，最主要的有杜瓦诺、阿尔曼、杜布菲、瓦萨雷里、艾豪、索托、丁格利等艺术家的作品。这次在北京的展览展出其中的100件作品，包括在现代美术史上具有重要地位的杜布菲和中国青年艺术家何岸。在策展上，雷诺汽车集团的艺术收藏部的负责人艺术史家辛德利 Anne Indery 有几条线索。一是突出现当代艺术史上的西方名家的作品，注意推介中国年轻艺术家的作品。另外一方面，也通过作品的展示，含蓄地让观众看到艺术家与汽车工业的关联。1967年到1985年间，雷诺汽车集团用自己工厂里的技术、后勤以及人力来支持邀约的艺术家的创作。雷诺汽车集团想要传递的信息是，公司不仅仅收藏艺术，它还是企业界赞助艺术家的先锋。雷诺汽车不仅在全球各大博物馆展出这些作品，而且还通过雷诺概念店来展示这些作品。另外，辛德利分别在1999年和2009年出版了两本介绍雷诺汽车艺术收藏的专著，邀请国际知名的艺术史家和艺术评论家凭借雷诺汽车的艺术收藏。1999年他在阿赞书局出版的画册就是以这次北京展览的名称《一场现代奇遇》作为书名的。很显然，在雷诺汽车集团的工业史里面，艺术也有一笔。上个世纪60年代正是战后20年的日子，百废待兴，法国社会生机勃勃。在快速发展的进程里，对前途充满信心的工业界对艺术产生了兴趣，因为艺术创造力和工业生产力的珠联璧合，会把朴实的工业放进神话，让工业进入新的境界。今天，雷诺汽车集团内部正在和法国政府为董事会里的私营股份和政府股份里的投票权比例斗智斗勇，外部要进一步开拓世界上发展最快、份额最大的市场之一——中国市场。对于一个已经发展与合并到相当规模，同时也面临这个世界的能源转型的汽车集团来说，每天都充满了大集团里既要沿袭规范又要创新之间的紧张。办展览展示雷诺的收藏和收藏历史，一方面是向雷诺汽车感兴趣的市场展示雷诺汽车的文化附加值，另外一方面也许显示了雷诺汽车对于上个世纪60年代到80年代期间那股创造力的纪念。说到雷诺汽车集团收藏的艺术家和作品，这次展览里中国青年艺术家何岸的作品引起了我的注意。何岸的装置作品叫是永远不是，是一组挂在墙上用各种材料组合起来的字和句子，但是字体背向观众，面朝墙壁，形式上看上去让我想到法国艺术家马修·马歇21世纪初的工作，但其实完全不一样。作品的字体，也就是材料，是艺术家请团伙盗贼偷盗来的，之后艺术家用这些字体来造句，呈现的方法经过了转换和变形处理。在谈话中，艺术家说，这个作品的制作过程具有政治含义，呈现方式有美术史的根据。何岸读当代哲学家的书， 他喜欢斯洛文尼亚哲学家齐泽克。在我面前，河岸是一位有点匪气和侠义气质，却极细腻极细心的人。他用艺术造型将自己的反叛正当化、国际化、商业化了。他的创作过程实际上就是一个反制度、反体制、建立新秩序的实验。他的呈现方式的美学意义其实并不是最主要的。就像杜布菲，实际上杜布菲并不是一个形式主义者，他把自己当作自然的一部分。河岸把受齐泽克启发的先知先觉与自己的匪气和侠义结合起来，成全了让自己的行为成为艺术的一部分的游戏。某种意义上，这是对杜布菲的继承。和杜布菲不一样的是，杜布菲的作品是雷诺汽车集团上个世纪与艺术家合作向艺术家征订的，河岸的作品是先在艺廊展示，之后辛德利替雷诺汽车集团做出决定收藏的。这一次雷诺汽车集团没有通过合作，而是直接买下了艺术家的作品。通过雷诺汽车集团对河岸作品的收藏和展示，看得出雷诺汽车集团不仅看到了中国的汽车市场，也用艺术的眼睛看到了在世界风起云涌的大潮中中国社会和中国人的一种状态。这种观察伴随着雷诺汽车集团为拿下 3% 的中国汽车市场的附加值创造，走进了雷诺汽车集团的艺术收藏史和工业史。请听法国国际广播电台主持人安东尼访谈中国艺术家河岸和法国雷诺汽车集团艺术收藏负责人安·因德黑·辛德利。河岸你好，这次呢你在北京的雷诺艺术收藏的展览里边呢展示了一件作品，请你给听众用语言介绍一下这件作品的形态。
第一个就是它由一段话组成，那段话是是永远不是，来源于齐泽克的书对于时间以及政治上面的不确定性。然后我就在我的老家找了我原来的朋友，这些朋友干的都是豪侠的工作，他们是入室盗窃集团的很专业的，当然从来不伤人呐，这些绿林好汉们，我请他们去把这几个字给偷回来，然后重新拼接做成了正反字，这样就组成了这句话吧，是是永远不是。当然字的颜色和那个光的颜色都是事先我要求的，比方说蓝色的或者红色的，字的本身的箱体是黑色的，都是我们要求的，所以说它制作的时间是比较长，长达4个月吧，应该是三个月。
那当时第一次展出是放在什么地方展览的？
第一次展出是在，应该是当普隆的一个个展，2014年的个展上的，在布鲁塞尔的。但是它每一次的形态是不一样，如果单就字本身来说，这次雷诺算是第一次了。就这个，因为他每一次偷的那个字的形态我是无法控制的，我只能说是要什么颜色，至于说什么样的字的，确实是不知道。
就是这次组合是第一次？
对，在雷诺的这一次是第一次。
那你为什么用这次这样的组合呢？
我就刚才说了嘛，就是看齐泽克的时候他总结出来的一个社会哲学上面的或政治上面的不确定性嘛，这个不确定性就是总结出来就是是永远不是，你没办法去判断现在这个世界，除了你有一个所谓革命的行动以外，但你没有判断这个世界它到底是什么，或者说是不是适合你，现在就是对于全球都是这样。
在做作品的过程里边，你说了就是找绿林好汉去把单一的单个的材料拿回来，然后呢你又有对颜色对光有要求，也就是说整个的过程就是从材料怎么得到，得到以后用什么样的光和颜色来处理，这个是一开始就想好的，而不是即兴的。
对，他这个行为本身，就是说这个作品它分在场和不在场，不在场的那一部分我是没办法控制，比方说这个字原来在哪里，采用什么途径去投到它，跟原来的那个话语我都不知道，但他们会把那个过程拍成照片给我，这个是我们事先确定好的。重新组合呢，那就因为你必须得 有所控制，这个控制是跟你的一个是美学有关系，一个是跟你所要表达的那个内容有关系。
当你说跟所要表达的内容有关系，也就是说跟展示的场合有关系了。
跟展示的场合没关系，实际上这就是我想表达的这个字它本身有关系，至于说放在什么场地展出对我来说都可以。
所以你不考虑字面的意思和展出环境的关系？
这个不会考虑。
这样形式的作品是一个系列两个系列还是？
做了很多年，四五年，我觉得五六年是肯定有的。应该确切的来说，真正的说是从2008年到现在，好像这个还不止五六年。但它因为每一样都不一样，还有一个因为它花的时间长，所以每年的套做的是有限的。那随着中国内地现在治安越来越严，就是说你真的是得花很长时间去找、去看，然后再去决定，还是比较累的。
那作品就是在一段时间里边，当然也有重复，可是在变化上你能不能介绍一下它的变化呢？
它从刚开始的时候单一的字体，比方说是永远不是啊，鸡缸美穗啊，风情四小头，这种单一阅读变成了到现在为止正反字处理，然后把它拼接在一块，就加强阅读起来的模糊性，更在美术史系统里面去找这种关系，而不是这个字本身的那个政治意义。我现在是笑把那个政治意义更加打磨到最后面，因为它这个字的来源它本身就已经具有了很大的政治含义了，那么剩下的就是在你在美术史的系统里面去找这个关系。
那么也就是说这件作品更多的其实是过程。
对，但是它有意思的在哪呢，就是说实际上它不断展出的是大家在展厅看到的，我没有强调这个过程的时候大家都会忘掉这个过程，就像我们现在需要的那种爱情一样，我们需要的爱情是永远是跟这个女的或者是跟这个人上床之后躺在一块的这个结果，之所以说你怎么样追她或者怎么样产生感情，这一段过程实际上是常常都被忽略掉，我们这种不在场的情绪实际上它是作为一个事件的本身，它是这个整个的一个过程的时候，也许这个不在场的情绪是起了决定性的作用，但这个现在的社会它就不需要那种东西。
那所以对你来说在想在实施这件作品的时候其实也是一个吸引激动最后成为一个结果的过程。
对。
那你有没有让参与这个过程的人包括绿林好汉去展示的地方看这个结果呢？
有些结果或者有些过程是永远是在这个时空当中，我们的社会的层面面对的阶层的方向都不会一样，所以那一段它只是让它在那个城市里面发生，至于说需不需要展示，我目前觉得完全没有必要去展示它。
不是，我是说参与者和最后展示的关系。
有过一次在里昂展出的时候，我把二者重新的都并置到这个展场，但对于我来说这一次就够了，它就像一个句号一样打在那儿就够了，你得重新开始另外一个方向。
所以从那次以后这件作品对你来说也就基本完成了。
从观念意义上来说实际上是确实是可以这么说，但是它还有另外一种发生发展的关系嘛。比方说它在美学系统里面它会重新的生成各种各样的形式，又会再一次生长，
那个就是另外一个层面了。
对对，目前来说是这样。
对你来说就好像一段爱情结束新的一段开始的这种感觉吗？
我觉得对我来说还并不是，如果是用爱情来比较的话我觉得还不是这样，就是说他有某种性格的人面对爱情的时候就是这个爱情结束了，实际上我们用科学的看法它是在另外的一个时空里面凝固住了，它是永远存在的，那么如果说你在回首看它的时候实际上是一个凝视的过程，这个凝视的过程有可能就只是针对这一段爱情，至于说未来是不是有新的开始，我觉得看每个人的性格，有的就不适合重新开始。
那现在我们回到 雷诺这次展览的话题。在雷诺汽车收藏的历史里边呢，大部分的我看到的，包括现在被看作很有成就的一些艺术家，在和雷诺合作的关系里边呢，经常有意识地把汽车的形状零件放进，或者作为语言放进他们的合作的作品里边。那当我在北京的这次展览呢，看到你的作品的时候呢，我看到这是很罕见的一件，并没有把雷诺的汽车发动机语言放进作品里的这么一件作品。那你肯定也在展场，你对这个是怎么看的呢？
我个人觉得，首先是艺术，反正现在是一个充满了谎言的世界，但是我们尽量的真实。我总得面对我自己的生长环境嘛。你让我面对从小械斗的西瓜刀，我觉得呢比一个雷诺的汽车来的真实。我们长得很大，就像我现在还没有自己的车一样，很晚才接触到汽车这个东西。我不可能跟那些西方艺术家一样，他们从小看到的就是这么多东西的时候，他们的亲切感跟我的亲切感是不一样的。我是没有那么强烈的那种亲切感，这种真实是尽量得做到。我觉得对于我来说，因为我不了解，我对工业文明不是那么了解，只是通过书本慢慢长大，慢慢好奇，就这样。
你觉得你的作品是以程序的游戏和激动为特征的这么一件作品，放在那些已经快成为现代作品，就是早一代的、早一个时代的这个作品里边，你觉得它是一个什么样的角色呢？
是我的角色还是我作品的角色？
作品，
我觉得挺好啊，因为用现在时髦的话说，逼格很高啊，因为有现代主义的很那个大师瓦萨尼啊，还有那个杜布菲啊，这些跟他们放在一块儿，我觉得对我来说还是很高兴的。
这次展览呢，是一个法国工业界向中国市场和中国人展示法国的审美，同时呢，在法国审美的眼睛里边看到的一个中国的年轻的艺术家。通过看整个展览，你觉得你的工作在法国的审美里边是一个什么样的工作？
这个确实没想过这个问题。我去巴黎也比较晚，2003年才去，当然很喜欢那么多没见过的美女啊什么的。这个，但是具体的你怎么想呢？那个，我想真正的艺术，说实话，我说个俗气的话说，就说现代主义以后，这是个重新组合成的一个世界。我想真正的艺术，它如果具有当代性的话，那么它是一个平面的。不管我是在北京还是在巴黎，我希望大家在一个平面上面来看待这个事。
那现在在中国的工业界、产业界，有没有像雷诺那样的收藏呢？
这个我真不知道，真不知道。
在中国没有类似的经验。
对对对对对，但是我觉得也应该有挺能砸钱的，钱往死里砸的也肯定有，肯定有。
比方说，
龙美术馆那不是买了那个莫迪里阿尼的10亿的那个，肯定有。因为现在随着中国经济的繁荣，这个我们只能用繁荣这个词啊，但很多的企业家，他们看世界的方法跟原来是不一样的，他们会面对西方，从各方面他们有所动作，这是一个很好的现象。
那其实你是一个绿林好汉们的指挥人，或者这个游戏里边游戏王，因为呢是你在向绿林好汉们要材料，然后你来展示组合他们的材料。这样的游戏呢，在西方的工业界敏感，你觉得在自己的祖国现在也有很多新兴的工业，他们会对你的这个游戏敏感吗？
这个我只能说不知道。还有一个就是，如果在我的祖国的话，党会很敏感，但是他们估计不会很敏感，因为我觉得他们应该不是那么会敏感的这个事儿。
如果在艺术圈里边、艺术界里边，你觉得 你是一个孤独的绿林好汉呢，还是你是一个群体里的一员呢？
在生活方面，我觉得大家需要互相扶持，以及对理想的坚持方面，我们都是需要扶持，需要相互朋友的鼓励，一步步走过来，这是肯定的。但是在面对自己面对艺术的时候，我觉得艺术的最高的功能，它有可能就是有一个终极价值的话，如果说是它能够替代宗教的话，那么这就是你必须得自己面对孤独。这个孤独不是说你一个人，是就像你面对你最终的死亡一样，这是艺术对人对一个艺术家提出的最高标准的要求。如果我们没有这种面对的话，我想是做不好艺术的。
西方的工业界，当它和艺术结合的时候，有一个很有意思的现象，就是一方面呢，工业界呢热爱中国的市场，另外一方面呢，工业界也要展示它的对于绿林好汉的喜欢。那你怎么看待这个双重性呢？
需要这种双重性呢、啊，因为西方从刚开始工业革命走到现在的话，他们的企业已经具备了这种双重性或者说灰色的空间的思维办法，他们知道如何的面对这个社会问题，他们既需要有一个商业的部分，也需要这个灰空间的部分，这是西方的一个企业比我们要良性的一个原因。它就像一个人一样，它已经具有成熟的这个概念，这个是西方企业跟中国企业有点不一样的地方。
当你用爱情来做比方的时候，是不是把这个双重性让它变得看起来听起来更有味道呢？
爱情更加有一种生理反应，当然这种生理反应是一直是艺术扎根于这块土地的最直接的一个链接方式，这个是肯定让它具有魅力一些。
好，谢谢何岸。
RFI
法国国际广播电台。
Anne, pourriez-vous nous présenter cette pièce de Niki de Saint-Phare intitulée The White Goddess?
Alors cette pièce de Niki de Saint-Phare, The White Goddess, qui porte bien son nom, ça veut dire la déesse de quoi? Je pense qu'on peut imaginer que c'est la déesse de la vie dans tous ses éléments. Et c'est ce qu'elle possède, elle, son corps est fait en fait de tout ce qui fait notre vie. C'est-à-dire on y repère tous ces objets qui sont des objets bien sûr trouvés, que l'artiste a plaqués hein, sur la sculpture de féminine qu'elle a construite. Elle a ensuite trouvé ses petits jouets d'enfant, ses petits éléments décoratifs qu'elle a collés hein, sur la figure et qui font un tout extrêmement vivace, hein, qui nous rappelle certains tableaux de la Renaissance. On peut citer peut-être Archimboldo, par exemple. Et là, c'est vraiment, ça résume toute la vie. C'est pour ça que c'est une déesse. C'est-à-dire que vous avez la végétation, hein, vous avez toutes ces fleurs, vous avez les animaux, vous avez la naissance, l'enfance, avec tous ces bébés qui sont en fait des petites poupées, hein, des baigneurs, comme on les appelle. Vous avez les animaux. Vous avez les petits masques, hein, il y a un masque de tête de mort, c'est la mort, vous avez la vie, vous avez aussi un masque de clown, c'est le rire, vous avez en fait tout ce qui constitue la vie. Et puis bien sûr, tous ces éléments forment son corps aussi, c'est-à-dire qu'ils forment ses cheveux, vous avez une ruade de cheval qui forme sa couronne, hein. Donc tous les éléments sont en même temps des éléments figuratifs qui nous rappellent tout ce qui peuple notre vie, et puis qui forme aussi son corps, son habit. Donc c'est une déesse. C'est une déesse dans la mesure où les êtres divins englobent tout.
Quand on parle de la Renaissance, vu la pièce, il y a un effet séché.
Oui, vous avez raison, bien sûr, parce que nous sommes dans les années 60, nous ne sommes pas à la période de la Renaissance, et nous ne sommes pas dans une période de Renaissance, nous sommes dans une période de transition où les choses sont arides, sont dures, et les artistes commencent à travailler là-dessus.
Et c'est une pièce commandée ?
Ce n'est pas une pièce vraiment commandée, c'est-à-dire que la forme de la pièce n'est absolument pas commandée. C'est Niki de Saint-Phare qui a choisi de la faire comme ça, et dans le cadre d'une collaboration avec Renaud. Mais il n'y avait aucune indication à suivre.
Maintenant, on est devant l'œuvre de Jean Miro, intitulée « Femme, l'oiseau ». C'est un travail qui a été fait en 1979.
C'est une gouache avec un à la vie, noir et blanc, enfin noir et blanc et gris, disons sans couleur, ce qui n'est pas évidemment très répandu chez Miro, mais qu'il a quand même beaucoup exploité et qui nous fait penser à son monde de signes. Le monde de Miro est toujours un monde de signes. Mais là, on est plus proche de l'écriture. c'est-à-dire qu'on est plus proche d'une écriture un petit peu orientale que de signes tels qu'on les a conçus, tels qu'on les a aperçus dans les formes flottantes des grands tableaux colorés.
C'est comme un idéogramme lointain.
Exactement, ça se rapproche beaucoup plus de l'idéogramme. On voit quand même la femme stylisée, on voit le déploiement de l'oiseau. C'est quelque chose de très fugitif, de très fugace. Hein. C'est-à-dire que ça correspond bien au reste des œuvres sur papier de la collection Renaud, c'est-à-dire des choses qui parlent de la trace, hein, qui parlent de la fugacité des signes et qui traversent un petit peu les tableaux. Là, on est complètement là-dedans. C'est la seule œuvre de Miro que possède la collection Renaud, parce que la collaboration avec Miro n'a pas été possible, étant donné que l'artiste est mort très peu de temps après que les contacts aient été pris.
Le titre, c'est « Femme et oiseau ». Donc, il met femme et oiseau ensemble.
Oui, ça, c'est un sujet très classique chez Miro. On le retrouve beaucoup, hein, la femme et l'oiseau. Alors on peut s'interroger sur ce que ça veut dire pour l'artiste vraiment, mais c'est vraiment un thème qu'on a à toute époque de Miro, selon toutes les techniques, que ce soit une très belle œuvre sur papier comme celle-ci ou bien les grands tableaux. Hein, femme, oiseau vont ensemble pour lui.
Shi, 永远不是, 在我们面前呢,这一幅呢, 是中国艺术家何安的作品, c'est une œuvre de Han, oui, jamais non.
Oui, c'est ce que ça veut dire. Donc c'est un message très ambigu. Réan est un artiste qui travaille beaucoup avec l'écriture. Il est d'ailleurs également poète, écrivain. Et il travaille aussi avec le système de messages de masse, c'est-à-dire les néons, par exemple, qui délivrent des messages dans les rues, un petit peu partout. Et son art consiste à mettre l'accent sur le fait que ces messages sont un petit peu conditionnés, qu'il ne faut pas évidemment les prendre pour argent comptant et se laisser conditionner par eux. Donc il les détourne. Il les détourne de différentes façons. Ce sont en fait des sculpture, écriture. Alors il récupère des anciens signes et il les reconstruit à sa façon et il écrit quelque chose qu'il veut exprimer. En l'occurrence, oui, c'est presque toujours non, hein. Ça veut dire que le message que délivrent les grandes compagnies qui ont justement néon sur rue ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Là, en l'occurrence, dans cette très jolie pièce, il a retourné le sens normal de l'écriture contre le mur, tant et si bien que la partie éclairée se retrouve contre le mur, comme s'il fallait traverser le mur et être de l'autre côté de la vitre pour pouvoir lire le message. Donc c'est une subversion, un détournement du message, un détournement du matériau du message et un avertissement évidemment à ceux qui sont victimes de ce matraquage des messages.
Visuellement, on a différentes couleurs, c'est-à-dire « shi ». Oui, c'est un rouge. Le premier mot de jamais, yon, c'est un blanc. Et après, ça passe par vert, bleu, rouge et bleu. Et il y a plusieurs couleurs avec des fils rouges. La matière, c'était quoi?
Alors la matière, ce sont des morceaux de récupérés, de signaux de rue, bien sûr, récupérés, qu'il récupère et qu'il reconstruit. Le fil électrique rouge, ça fait partie de sa marque de fabrique. Toutes ces écritures, sculptures au mur sont allumées par le biais de fils électriques semblables qui sont tirés tout droit vers le sol. Quant aux différentes couleurs, c'est sa préoccupation esthétique également. Il veut rythmer sa phrase, comme nous on la rythme par la pensée et puis on la rythme aussi par la syntaxe.
Pour ce genre de travail, ça fait penser Mathieu Mercier à Beaubourg, mais peut-être sans néon, c'est en français. Et là, c'est en chinois, non seulement il travaille avec les mots, quasiment comme un slogan cloué sur le mur, mais en même temps avec néon, avec le message chinois. Et vous, comment vous avez choisi cette pièce ?
Je ne connaissais pas l'artiste, je suis rentrée dans une exposition qui avait lieu à Paris et j'ai tout de suite été séduite par tout ce que j'y ai vu et j'ai compris assez instantanément ce qu'il faisait. J'ai compris qu'il subvertissait les messages de néon qu'on trouve partout dans les rues, qu'il en faisait une sculpture, qu'il en faisait quelque chose de plastique, quelque chose de militant. Quelque chose de différent. Donc je me suis approchée, j'ai demandé qu'on m'explique, j'ai compris que les messages écrits étaient aussi une très ambigu, comme contrepoint des messages extrêmement univoques de la publicité et des slogans. Voilà, donc tout cela m'a intéressé, cet aspect conceptuel. Vous évoquiez Mathieu Mercier, c'est tout à fait juste. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là hein, qui est entre le conceptuel, le poétique, le militant, le sculptural. Tout ça était là pour moi et avec une évidence extrême. Donc j'ai vraiment voulu rencontrer l'artiste, je lui ai passé commande.
Mais quand même, il y a une continuité de Jean Dubuffet.
Oui, il y a une continuité parce que ça n'est pas un graffiti, mais c'est une écriture sur le mur. C'est une écriture qui est destinée à être vue, à être lue, et, mais qui est subvertie. Hein. Elle est subvertie comme Dubuffet a subverti l'écriture, puisqu'il en a fait une espèce de gribouillis. Et puis c'est aussi au rythme de la pensée, de la même façon que Dubuffet, son univers de graffiti est construit au rythme des soubresauts, des haltes, des hésitations de la pensée humaine.
Maintenant, devant nous, c'est une pièce, on dirait sculpture, installation de l'artiste chinoise Wan Feng.
Wan Feng est une artiste chinoise, pékinoise, qui est très philosophique, très, très préoccupée des problèmes de société, des problèmes de beaucoup écologiques, problèmes de réchauffement climatique, de problèmes de pauvreté. Elle est très préoccupée de certaines régions de son pays, la Chine, qui sont très, très pauvres et qui sont très sèches. Et cette très belle sculpture est une, on va dire, une interprétation sculpturale très évocatrice. D'un paysage totalement desséché, désertifié, par manque d'eau. Et ces stries sont soulignées par de la peinture rouge qui, évidemment, exprime automatiquement dans l'inconscient collectif la souffrance.
C'est une sorte de cube et chaque façade, c'est un mètre carré à peu près. Et surtout sur la surface qui se donne au ciel, on voit qu'il y a des craquelures, des fractures. Et dedans, c'est une sorte de... En profondeur, il y a des peintures rouges.
Oui, quand on se penche au-dessus de la sculpture, qui n'a que 1 mètre de haut, donc on peut très facilement s'y pencher, on découvre véritablement le paysage horizontal et on a une compréhension immédiate qu'il s'agit d'un paysage désertifié, desséché, craquelé, où il n'y a plus aucune végétation, plus aucune vie, et où les quelques crevasses qui étaient à l'origine, bien sûr, faites par de l'eau qui passait, il n'y a plus d'eau qui passe. Elle l'a remplacée par de la peinture rouge qui évoque tout de suite le sang, donc la souffrance.
Dans une ville comme Pékin, en ce moment, la visibilité est très faible à cause de pollution. Peut-être c'est une pièce qui donne indirectement un message.
Oui, je pense qu'elle donne indirectement un message écologique. Elle est en même temps très expressive. Et je crois que toute personne qui voit cette œuvre ne pense pas peut-être consciemment aux problèmes écologiques, mais ça fait son chemin. Je voudrais juste signaler que l'artiste, juste avant le vernissage de l'exposition, était à la COP21. Elle avait été invitée officiellement à assister à cette grande réunion sur le réchauffement climatique. Donc elle est vraiment connue comme étant quelqu'un de très militant sur ce sujet-là.
RFI, Radio France International.
Bonjour Anne Indri. Aujourd'hui, on va parler de vos expositions en Chine. Et d'abord à Pékin, après à Wuhan. Vous êtes au cœur, ou bien vous dirigez l'art de Renaud. Et pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle de l'art dans cette industrie traditionnelle et française ?
Pour expliquer le rôle de l'art dans cette industrie, comme vous dites très bien, traditionnelle et française, il faut revenir un tout petit peu à son histoire, qui est tout à fait originale quand même, hein, puisque Renaud, par le biais des acteurs de l'époque, hein, on parle du milieu des années 60, a décidé de se rapprocher des artistes. C'était une entreprise industrielle emblématique du paysage français. Ils ont décidé de se rapprocher de ce qui était en train de se faire au niveau de la création. Et donc, ce qui existe maintenant entre Renaud et l'art, c'est quand même aussi le résultat de plus de 30 ans d'une vraie présence, hein, d'une vraie implication de l'entreprise, avec des hauts et des bas. Par moments, bien sûr, l'entreprise a connu des crises par ailleurs qui ont fait que l'art était devenu un petit peu secondaire. Mais disons que, bon an, mal an, voilà, c'est là. Et Renaud a une histoire et une relation assez exemplaire avec l'art. Alors, vous me posez la question de la place de l'art par rapport à l'entreprise. Je parlerai peut-être d'une première chose, c'est son aspect, finalement quelque chose de très subjectif et d'affectif, c'est son aspect fédérateur. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a plus de 100 000 employés a besoin de quelque chose qui l'aide à traverser les crises, qui sont des crises industrielles, des crises économiques, des crises de personnel, que sais-je, hein, tout ce qui peut représenter les obstacles d'une grande entreprise. Et puis, il y a quelque chose qui est un petit peu au-dessus, ou en tous les cas, à côté, tout en étant dedans. Et c'est-à-dire, par exemple, cette collection d'art dont ils ont toutes les raisons de se sentir très fiers et de se sentir un peu pionniers, puisque cette relation très proche et très tricotée de l'industrie avec l'art est effectivement une des premières en France.
En Europe, il y a toujours une tradition dans laquelle que les industriels collectionnent d'art et font exposer leurs collections. Par exemple, quand on va à Londres, à Curtis Institute, on se perçut que c'était 19e siècle, c'est un grand industriel dans le textile qui collectionne l'art contemporain de son époque et après, il fonde cette institution et fait exposer sa collection. Est-ce que Renault, c'est dans la même démarche?
C'est un petit peu différent, parce qu'il ne s'agit pas d'un individu déjà, il s'agit vraiment d'une entreprise. C'est ce qui aussi la distingue, c'est-à-dire qu'il y a eu bien sûr des individus qui ont fait que la chose a pu se passer, a pu advenir. Les individus étant, je peux les nommer, c'est le PDG de l'époque du milieu des années 60, un PDG d'ailleurs qui est resté mythique dans le paysage de l'industrie française, qui s'appelait Pierre Dreyfus, et puis un cadre de l'entreprise qui s'appelait Claude Renard, qui était un pied dans l'art de par sa famille, de par ses circonstances personnelles, et puis un cadre de l'entreprise. Et donc la conjonction de ces deux hommes a fait qu'ils se sont lancés dans quelque chose qui n'était pas du tout personnalisé. C'était personnalisé sur, si j'ose dire personnalisé, sur l'entreprise Renault, et pas sur eux-mêmes. Et ça, ça fait la différence. Vous me parlez de l'initiateur de la collection du Courtauld, évidemment, mais c'était sa collection, c'était une aventure totalement personnelle. Chez Renault, ça a déjà commencé avec quelque chose de beaucoup plus collectif.
C'est un peu similaire que LVMH, là.
D'une certaine façon, oui, parce qu'effectivement, je ne connais pas toutes les organisations de la Fondation Louis Vuitton, mais dans la mesure où ils ont maintenant un lieu où tout le monde se rassemble, tout le monde est partie prenante de l'entreprise. Hein, je pense que, et puis, ça a le nom du fondateur et non pas le nom de la personne qui l'a créé. Donc ça, c'est déjà effectivement une ressemblance. Là où c'est peut-être un tout petit peu différent, c'est une question de période. Quand Renault a commencé, c'était totalement inimaginable, en fait. Hein. L'art contemporain était complètement dans son petit ghetto d'art contemporain et personne dans la société civile ne s'y intéressait.
Mais aussi, il y a des démarches un peu différentes. Parce que LVMH, ils ont invité des artistes de décorer les sacs pour faire des séries limitées. Et chez Renault, je ne vois jamais que vous avez invité un artiste de peindre les voitures pour faire séries limitées, par exemple.
Non, vous avez raison. L'originalité de Renault, c'est que ça n'est pas du tout axé sur les voitures. C'est-à-dire que Renault se présente comme étant une grosse industrie qui fabrique des voitures, mais quand elle invite les artistes à visiter ses ateliers, ses espaces, ses départements du design. Mais les artistes sont libres de penser à une œuvre qui les concerne et ne sont pas du tout sollicités pour s'attarder spécialement sur les voitures.
Mais par contre, dans la collection de Renault, on voit bien que c'est Renault qui s'est invité chez les artistes. Par exemple, chez Dubuffet, on voit comment il a invité la voiture dans son monde, comment il a vu interpréter la voiture dans son monde. L'artiste contemporain chez Angela, on voit comment il a fait une sorte de biopsie de voiture Formule 1. Donc, démarche est complètement à l'inverse.
Oui, je crois que la voiture fait rêver. Elle fait rêver tout le monde encore aujourd'hui, elle fait rêver les artistes. Non seulement l'objet lui-même de la voiture, mais ce que ça suppose avant de créativité, de design, de forme, de projection sur sa relation à la personne, hein, aux individus. Donc je pense que c'est quand même un sujet, l'automobile, qui est extrêmement passionnant, quoi qu'il en soit, sans qu'on parle de pneus ou de records de vitesse. C'est simplement un élément extrêmement important du paysage industriel d'un pays, mais aussi du paysage collectif. Et je crois que c'est ça qui les a beaucoup, beaucoup inspirés, tous ces artistes, parce que Ils étaient là, ils rentraient, ils découvraient une grande entreprise industrielle. Du Buffet, il a découvert des matériaux qu'il ne connaissait pas, qu'il a pu utiliser. Donc ça l'a beaucoup amusé aussi. Il a découvert aussi une machine à agrandir, par exemple, les maquettes, ce qui lui permettait de déployer ces fameuses sculptures et murs et éléments de la série de l'Ourloupe. Donc ils y ont trouvé leur inspiration, mais aussi leurs moyens. Angela Palmer, que vous citez, c'est elle qui a sollicité Renault parce qu'elle avait envie de faire une biopsie de la Formule 1. Elle aurait pu solliciter évidemment Ferrari, mais elle a sollicité Renault parce qu'elle connaissait l'histoire de Renault avec l'art.
Donc la voiture de Renault devient un élément dans le monde imaginaire des artistes.
Alors, plutôt que la voiture, je dirais en tous les cas l'automobile dans le sens beaucoup plus large. L'industrie de l'automobile, cette espèce de créativité, où vous avez des bandes de designers qui travaillent comme des fous à trouver d'autres modèles, d'autres formes, d'autres rapports à l'humain. C'est un petit peu une ombre ou un fantôme de la personne, hein, une automobile. On est avec son automobile qu'on peut être avec son chien ou c'est quelque chose qui vous appartient, hein, qui vous donne un reflet de vous-même. Donc je pense que ça, c'est très important.
Une fois vous êtes là en Chine, dans le marché chinois, qui est un des marchés les plus grands pour Renault, vous donnez une image, non seulement c'est de l'engine, c'est de l'excellence de l'engine, de moteur, de la forme, lumière de voiture, avec les œuvres d'art, le monde imaginaire des artistes, vous amenez des exagérations, des déformations, des interprétations surprenantes, proprement liées avec l'art que la France est très renommée.
Oui, je crois que effectivement Renault arrive dans un paysage chinois qui est déjà sinon saturé, en tous les cas très 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 plein de diverses marques automobiles. Mais il arrive justement avec son profil un petit peu différent, et je pense que c'était important pour l'entreprise de montrer qu'il y avait quelque chose en plus, ou en tous les cas à côté, un petit peu différent de toutes les autres marques automobiles. Et ça se situe dans cette créativité-là et dans cette relation historique avec l'art. Je pense que c'était important de le montrer dès l'arrivée de Renault l'usine. D'ailleurs, les dirigeants de Renault l'ont très bien compris, qui m'ont bien sûr beaucoup soutenu pour l'ouverture de ces deux grandes expositions qui vont avoir lieu. Enfin, l'une est déjà ouverte et puis elle continuera à Wuhan, où il y a donc les usines non seulement de Renault, mais déjà bien implantées, de Peugeot, de Volkswagen et pas mal d'entreprises industrielles.
Dans vos expositions, non seulement vous montrez les artistes français ou bien européens de très haut niveau, de grand niveau, et aussi des artistes contemporains chinois, peut-être qui ne sont pas connus par tous les Chinois dans le paysage. Comment vous avez eu cette idée d'inviter des nouvelles générations des artistes chinois de rejoindre les grands noms d'artistes français chez Renault?
Bien, pour moi, quand le projet de l'exposition en Chine s'est concrétisé, je me suis dit on ne peut pas faire une exposition en Chine de grands artistes européens ou autres sans regarder la scène chinoise et regarder ce qui se fait en Chine, comment surtout qu'elle, évidemment, chacun sait, elle est extrêmement florissante, elle est dynamique, elle est presque plus dynamique encore que la scène française. Donc moi, ça m'intéressait d'inclure justement la jeune génération chinoise dans cette aventure, dans leur pays en plus. C'était pour moi essentiel.
Si le marché chinois de Renault est à explorer et développer dans le monde d'art chez Renault, quelle est votre perspective dans le futur?
Eh bien, en fait, il y a une double question dans votre question. Quelle est la perspective pour l'art chez Renault en Chine, par exemple? Quelle est la perspective pour Renault en Chine? Et qu'est-ce que l'art peut apporter à la perspective de Renault en Chine? Moi, je pense que ce que ça peut lui apporter, ce que j'ai mis en avant auprès des dirigeants de Renault, c'est une notoriété d'abord qu'elle n'a pas, c'est-à-dire une couverture médiatique, par exemple, qui va au-delà des magazines spécialisés automobiles ou industriels et qui rejoignent les médias lifestyle ou les médias généralistes, simplement. Bon, la notoriété, c'est certain. Je pense que les artistes sont suffisamment historiques, excellents, et puis même les non-connus comme les Chinois sont suffisamment excellents pour qu'effectivement la réaction médiatique soit énorme. Mais je pense qu'il y a plus important que cela. Il y a à montrer tout de suite, d'entrée, la différence de Renaud. L'histoire de Renaud avec sa collection d'art est, en fait une entreprise différente. Et elle construit, je l'ai expérimenté dans d'autres pays où Renaud venait de s'implanter, elle construit un capital affectif. Il y a quelque chose d'humain, il y a quelque chose de complètement ouvert dans cette entreprise où on travaille avec les artistes. On ne les achète pas comme ça, tout fait, fini sur le marché, mais on travaille avec eux. On voit ce qu'ils ont à dire, on voit comment ils vivent la relation. C'est presque comme une relation d'amour. On fait petit à petit et puis on voit comment ça se passe.
C'est-à-dire, si je comprends bien, l'art fait partie de l'identité Renaud.
Oui, on peut le dire comme ça, absolument. Absolument, et j'y travaille vraiment, vraiment beaucoup parce que pour moi, c'est très important. Ça me tient absolument à cœur parce que je pense que c'est là le cœur de cette relation. Même s'ils ne l'ont peut-être pas, ils n'ont peut-être pas su au cours des années toujours l'exprimer, selon qui était évidemment à la tête, mais je pense que c'est vraiment cela. Je pense que c'est une histoire d'amour.
Merci Anne Indri.
Merci.
RFI, Radio France International.